Il est maintenant 19h30, ici à Paris, c'est RFI que vous écoutez.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir et merci Philippe Le Caplin. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, première prise de parole publique de Joseph Kabila depuis son départ de la République démocratique du Congo en 2019. L'ancien président congolais sort de son silence via une tribune dans le Sunday Times, un journal sud-africain. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide et leurs alliés signent une charte fondatrice d'un gouvernement parallèle, une initiative du général Hemeti, commandant des FSR. Et puis un projet de réforme fiscale au Nigeria, le projet porté par le président Ahmed Bola Tinubu, va cependant faire l'objet d'une audience publique au Sénat ce lundi, étape importante pour l'adoption de cette réforme jugée ambitieuse. Ce dimanche, l'ancien président congolais Joseph Kabila signe une tribune dans le Sunday Times, un journal sud-africain. Une tribune qui marque son retour dans le jeu politique congolais. C'est depuis son départ de la présidence en 2019, l'ancien chef de l'État installé en Afrique australe ne s'était pas exprimé publiquement. Le reste, c'est Coralie Pierret qui raconte.
Pour l'ancien président Joseph Kabila, la solution pour mettre fin au conflit dans l'est de la RDC n'est pas militaire. Ni l'envoi de troupes ou d'équipements supplémentaires en soutien à l'armée congolaise ne pourront résoudre la crise. Un signal fort envoyé au président sud-africain pour qu'il clarifie sa position, décrypte à RFI un proche de Joseph Kabila. Sous l'impulsion de Cyril Ramaphosa, l'organisme régional SADC avait envoyé l'année dernière des troupes en RDC avec un mandat offensif pour empêcher le M23 soutenu par le Rwanda de poursuivre sa progression. Des troupes qui sont encore aujourd'hui à Goma, l'une des principales villes de l'est de la RDC où le M23 s'est installé fin janvier. Pour Joseph Kabila, les racines de la crise sont à la fois politiques, sociales et institutionnelles. Une crise qui trouve son origine dans la rupture du processus politique en 2021, quand le clan Kabila s'est vu exclu des instances de pouvoir par l'actuel président Félix Tshisekedi. Avec cette tribune, l'ancien chef de l'État signe son retour sur la scène politique avec des revendications, explique un proche. Revendications qui ne sont pas encore clairement explicites. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et cette prise de parole intervient alors que la gestion des déplacés internes devient de plus en plus difficile. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire, environ 700 000 personnes ont fui depuis 2023. Plus récemment, le M23 soutenu par l'armée rwandaise est arrivé donc dans de nouvelles localités, dont Goma et Bukavu. Une présence qui a provoqué de nouveaux mouvements de population. L'aide humanitaire, déjà sous pression, peine à suivre l'ampleur de la crise. Des appels se multiplient pour l'ouverture d'un corridor humanitaire. Récit Christina Okedlo.
Le mouvement des déplacés se fait par vagues successives selon OCHA. Avant l'arrivée de M23, soutenu par le Rwanda, des milliers de déplacés des territoires de Masisi, Lubero et Rutshuru avaient trouvé refuge à Goma et Minova, deux localités où se sont concentrées des dizaines de milliers de personnes. Mais le démantèlement des camps après l'ultimatum du M23 a forcé de nombreux déplacés à retourner dans des zones où il n'y a plus d'infrastructures de base. Un retour contraint alors que les humanitaires eux-mêmes peinent à répondre à l'urgence, touchés par les manques de ressources après les récents combats. Eugène Bion, porte-parole du HCR, alerte sur la situation.
Nous sommes préoccupés par l'approvisionnement dans le pays, car de nombreux entrepôts d'acteurs humanitaires ont été pillés pendant le conflit. Tout ce dont ces populations ont besoin doit transiter par le corridor humanitaire, c'est-à-dire l'aéroport et le port. Or, l'accès à ces infrastructures est actuellement très limité. Une fois que nous pourrons atteindre les populations déplacées, nous aurons impérativement besoin que ces approvisionnements entrent dans l'est du Congo pour leur venir en aide.
Sans accès, impossible d'évaluer combien de déplacés restent sans assistance. D'après OCHA, près de 300 000 personnes ont fui ces dernières semaines. Un chiffre qui pourrait encore grimper si les combats se poursuivent.
Christina Okello, et puis le conflit en cours dans l'est de la RDC ne changera rien. Nos déroulements des championnats du monde de cyclisme prévus au Rwanda voisin. Ils auront donc bien lieu cette année au Rwanda. Déclaration du président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien. Toutes les conditions sécuritaires, notamment, sont réunies, précise le dirigeant français présent à Kigali pour assister au départ du Tour du Rwanda. Ces dernières semaines, l'UCI s'était déclarée très attentive à l'évolution de la situation à la frontière congolaise. Au Soudan, les paramilitaires des FSR et leurs alliés signent un accord en vue de la formation d'un gouvernement parallèle à celui du général Al-Burhan. La charte a été paraffée dans la nuit dernière lors d'une réunion qui s'est tenue à huis clos à Nairobi au Kenya, une initiative du général Hemeti, commandant des forces de soutien rapide. 24 organisations de la société civile, groupes armés et partis politiques ont donc signé la charte fondatrice de ce projet. Correspondante régionale, Gaëlle Lalex.
Parmi les signataires d'importance se trouve le parti Ouma, le mouvement Justice et Égalité, ancien membre de la coalition civile Takadoum, et surtout le SPLM Nord, puissant groupe armé du sud du pays. Ce que nous avons accompli hier incarne l'espoir de millions de Soudanais. S'enthousiasme ce matin Ahmed Tugod, secrétaire général du mouvement Justice et Égalité. Pour lui, ce nouveau gouvernement représente l'unique solution pour une sortie de crise, car il modifie de facto la situation politique du pays. Les négociations du texte n'ont pas été un long fleuve tranquille. Ce n'est qu'à 1h30 du matin, dans le secret, que la charte a fini par être signée. C'est un processus politique, rassure Ahmed Tugod, chaque détail devait être réglé. Parmi les points d'achoppement, la question notamment de la laïcité, condition sine qua non à l'adhésion du SPLM Nord. Le texte prévoit au final que le Soudan soit un État laïque, démocratique et non centralisé. Il sera pourvu d'une seule armée nationale, mais permet l'activité de groupes armés. Reste maintenant à composer ce gouvernement parallèle. Les négociations ont déjà démarré ici, à Nairobi, confie une source proche des signataires. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Et par ailleurs, l'armée soudanaise affirme ce dimanche avoir brisé le siège autour de la ville clé d'El Obeid dans le sud du pays. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée affirme que les forces régulières ont réussi à rouvrir la route vers El Obeid et à faire la jonction avec des soldats à l'est de la ville, chef-lieu de l'État du Kordofan du Nord. Au Nigeria, le projet de refonte fiscale porté par le président Bola Tinubu va faire l'objet d'une audience publique au Sénat ce lundi. C'est une nouvelle étape importante en vue de l'adoption de cette réforme ambitieuse qui a suscité initialement beaucoup de résistance, notamment dans les rangs des gouverneurs du nord du pays. Les précisions de Lisa Fabian.
C'est une victoire politique pour le président nigérian Bola Tinubu et son ambitieuse réforme fiscale. Un paquet qui comprend 4 projets de loi distincts et qui vise à simplifier la collecte des impôts dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Sauf que le projet transmis à l'Assemblée nationale début octobre a fait face aux résistances des gouverneurs du nord du Nigeria qui s'estimaient lésés par certaines dispositions. La réforme prévoit notamment des changements dans la répartition des recettes de la TVA. Le nouveau calcul ne convenait pas au gouverneur du Nord, car il avantagerait les régions qui produisent plus de richesses et qui consomment plus, comme l'État de Lagos, au détriment des régions du Nord du pays qui sont plus peuplées, mais aussi plus pauvres et moins industrialisées. Les gouverneurs n'appréciaient pas non plus que cette réforme soit portée par le président lui-même et non pas par l'administration fiscale. Ils ont finalement décidé d'apporter leur soutien à Bola Tinubu, même s'il s'oppose toujours à une proposition de forte augmentation de la TVA dans les prochaines années, vu le contexte économique déjà difficile au Nigeria.
Lisa Fabian. Et puis le rideau sur Abidjan, capitale du rire. La 10e édition du Festival d'humour de Côte d'Ivoire s'achève ce soir au Palais de la Culture de Trècheville. Fin de l'événement avec la traditionnelle battle. Reportage Benoît Almiras.
Et pour cette 10e édition, la battle oppose les debouts aux coulées, comprendre les riches contre les pauvres.
Bonsoir à tous les riches qui sont devant. Vous voyez, applaudissements raffinés. Maintenant, les pauvres, faites du bruit.
Sur la scène, deux clans de comédiens se moquent du rapport des uns et des autres à l'argent, à la religion ou encore aux animaux. De quoi faire rire Julie et Ignace qui sont venus se détendre en famille.
Ça me fait plaisir de raconter les comédiens et tout ça. Franchement, je les adore.
Plein d'émotions, de rire et puis de détendre en tout cas, de détendre. Ça nous permettra aussi de nous réchausser pour aller au travail demain encore.
Dans le clan des Debout, il y a l'Ivoirien de Perpignan.
Pour une première fois dans ma vie, je joue le rôle de riche, même si en dehors de la scène, bon, ça ne bouge pas. Hein. Donc...
En coulisses, le comédien ne se lasse pas du festival.
J'adore la manière dont le Gondwana organise aussi ce festival-là pour toujours gagner. regarder ce beau sourire-là que les gens retour nous donnent.
De Perpignan qui donne rendez-vous à Abidjan, capitale du rire, 11e édition. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Abidjan, capitale du rire, un événement RFI. Et puis sachez également que le prix RFI Talent du rire 2024 a été officiellement remis ce soir à l'humoriste camerounais Dr Kevin. Pour être complet, vous pouvez également retrouver l'émission de Nathalie Amar sur le Pont des Arts et ses invités Maman et le Magnifique, émission disponible en podcast sur RFI.fr. Il est 19h40 à Paris.